Chapitre 11. L'histoire des Badona. Gardez-vous de mettre le pied sur le joli promontoire où se dresse le manoir de Borg, à l'est du Leven, entouré de baies profondes et du murmure des vagues. Nulle part le Leven n'est plus charmant. On ne saura jamais la beauté du lac de mes rêves si on n'a pas vu, du promontoire de Borg, les traînes du brouillard matinal se replier sur son miroir, et si on n'a pas contemplé des fenêtres du cabinet bleu où sourire tant de frais visages, un pâle couchant rouge. Je vous le dis cependant, n'y allez pas. Vous pourriez être pris du désir de rester dans ces salles du vieux domaine où les souvenirs pendent comme des draperies de deuil. Peut-être achèteriez-vous cette belle terre et, jeune, riche, heureux, y viendriez-vous habiter avec une jeune femme aimée. Il vaut mieux que vous ne fouliez jamais ce promontoire, car le bonheur n'y veut point élire domicile. Si vieux parquet de Borg trempé de pleurs boirait bientôt vos larmes, et ces murs, qui ont entendu tant de gémissements, recevraient bientôt vos plaintes. Il semble qu'un malheur y soit enseveli, un malheur qui ne peut rester en repos dans sa tombe et qui en sort pour tourmenter les vivants. Si j'étais le maître de Borg, je ferais fouiller le sol pierreux de mon parc et la terre de ma cave jusqu'à ce qu'on y trouvât le cadavre rongé de la vieille sorcière qui doit y être enfouie. Et je lui donnerais une sépulture en terre bénite de Svartieu, et je n'épargnerai point sur la paille des sonneurs le jour de l'enterrement. Mais les cloches sonneraient à toute volée, et j'enverrai de riches cadeaux aux pasteurs et aux sacristains, en les priant de ne point économiser les psaumes, et de consacrer avec force chant et oraison la défunte au repos de la couche funèbre. À l'époque où je parle, Borg resplendissait encore sur le promontoire, protégé par de puissants sapins, et en bas, les champs de neige étincelaient au piquant soleil de mars, et la petite comtesse Elisabeth faisait éclater de rire les échos des grandes salles. Les dimanches, elle allait à l'église de Svartieu, tout près de Borg, et elle ramenait quelques personnes à dîner. Le juge de Munkerud et le capitaine Hugla avec leur famille, et le pasteur et Saint-Ram. Si par hasard Justa Berling s'était rendu à Svartieu, si par hasard il avait traversé la glace du Leven, elle l'invitait aussi. Et pourquoi n'eût-elle pas invité Justa Berling? Elle ne sait pas qu'on lui attribue déjà les fréquentes apparitions de Justa sur la rive de l'Est. Peut-être le jeune homme vient pour boire et jouer en compagnie du méchant Saint-Ram. Mais il est plus vraisemblable que la jeune comtesse l'y attire. Depuis quand Justa Berling peut-il voir des yeux brillants, des cheveux blonds et à front blanc sans en tomber amoureux? Il est vrai que la jeune comtesse est si bonne pour lui. Mais envers qui la jeune comtesse n'est-elle pas excellente? Justa est souvent assis dans le cabinet bleu d'où l'on découvre toute la beauté du lac. Et il lui lit des vers. Rien de dangereux à cela. Justa n'oublie pas qu'elle est comtesse et qu'il n'est lui qu'un aventurier. Et la société d'une personne qu'il respecte et met très haut lui est infiniment salutaire. Il pourrait aussi bien s'éprendre de la reine de Saba dont l'image peinte orne les murs de l'église de Svartieu. Il ne demande qu'à la servir, à nouer ses patins, à tenir son écheveau, à conduire son traîneau. C'est un homme qui trouve son bonheur dans cette sorte de cour romanesque et vaine. Le comte est silencieux, toujours grave. Justa bouillonne de verve et de gaieté. Il amuse la comtesse. Qui donc pourrait s'imaginer que cette jolie femme rieuse et vive porte dans son cœur un amour défendu? Elle ne songe qu'au plaisir et à la danse. Elle voudrait que la terre fût bien plate, bien unie, sans pierre, sans montagne, sans lac, afin d'en faire le tour en dansant. Il lui plairait d'aller ainsi jusqu'à sa tombe et d'y descendre avec une robe de bal et des souliers de satin. Quand les invités viennent à Borg, les messieurs passent ordinairement après le dîner dans la chambre du comte où ils fument au somnole. Les vieilles dames s'enfoncent dans les fauteuils du salon et appuient leurs têtes vénérables sur les dossiers. Mais la jeune comtesse et Anna Stirnuck échangent des confidences infinies. Le dimanche qui suivait le jour où Anna avait ramené à Berga la pauvre Ulrika Dillner, elle se trouvait dans le cabinet bleu. Toute la bravoure de la jeune fille s'est évaporée. Une idée la hante qui lui empoisonne l'âme. Si ce n'était pas Dieu qui eût envoyé les loups, et elle cherche un implore une certitude impossible à obtenir. Ce dimanche, comme elle était assise en face de la comtesse, ses yeux tombèrent sur un petit bouquet d'anémones que celle-ci tenait à la main. Or, il n'y avait d'anémones, au commencement d'avril, que sous les taillis de bouleaux d'Aigbe. Elle regardait ces étoiles bleues si charmantes dont les pétales nous annoncent tant de bonheur et de joie. Et plus elle les regardait, plus la colère grondait dans son âme. De quel droit, se disait-elle, la comtesse Donna porte-t-elle ce bouquet d'anémones cueillis à Egbe? Tous, Saint-Ram, la comtesse, oui, tous veulent tenter Josta Berling et l'entraîner au mal. Mais elle le défendra, fût-ce au prix de ce qu'elle a de plus cher. Elle ne quittera pas le boudoir que ses fleurs tombées à terre n'y aient été foulées aux pieds. Et Anna Stirnuck entame la lutte contre les petites étoiles bleues. Dans le salon, les vieilles dames sommeillent. Au fumoir, les messieurs tirent indolemment des bouffées de leurs pipes. Partout, le silence et la paix. « Anna, dit la jeune comtesse, conte-moi une histoire. »« Une histoire de quoi ?»« Oh, dit la comtesse en caressant son bouquet. Ne sais-tu pas une histoire d'amour ?»« Non, je ne sais rien de l'amour. » Mais il y a ici une place qui s'appelle Egbe et une maison habitée par des cavaliers dont on raconte d'innombrables prouesses. Oui, il y a ici une place appelée Egbe et il y a une maison habitée par des hommes qui sucent la moelle du pays, qui nous détournent de tout sérieux effort et qui corrompent notre jeunesse. Te plaît-il d'entendre parler d'eux? Moi, je ne déteste point les cavaliers. Une passion secrète tremble dans la voix d'Anna Stirnuck et la comtesse l'écoute, intéressée, presque effrayée. Sais-tu ce qu'est l'amour d'un cavalier? La fidélité d'un cavalier? Une maîtresse aujourd'hui, une autre demain, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. Rien n'est trop élevé pour eux, ni trop bas. Un jour une comtesse, le lendemain une mendiante. Les cavaliers ont le cœur large et spacieux. Malheur à celle qui aime un cavalier. Elle ira le chercher ivre au bord de la route, et elle devra supporter qu'il courtise d'autres femmes. Ah, Elisabeth! Si un cavalier demande une danse à une honnête femme, elle a bien le droit de la lui refuser. S'il lui donne un bouquet, qu'elle jette les fleurs à terre et les foule aux pieds. Et si elle l'aime, qu'elle meure plutôt que de lui appartenir. Il y avait autrefois parmi les cavaliers un prêtre défroqué. On l'avait chassé de l'église pour ivrognerie. Figure-toi qu'il buvait jusqu'au vin de la communion. T'a-t-on parlé de lui? Non, comment se nomme-t-il? Oh, il n'est plus à Egbe. La commandante l'avait recueilli, et je pense que ce fut elle qui persuada ta belle-mère, la comtesse Donna, de le prendre comme secrétaire, régisseur ou peut-être précepteur du comte Henrique, je ne sais trop. Un prêtre défroqué? Oui, mais c'était un homme jeune et fort instruit. Quand il ne buvait pas, on ne pouvait rien lui reprocher. D'ailleurs, la comtesse Martha trouvait fort plaisant de faire ainsi enrager le curé et le vicaire de la paroisse. Mais elle avait fait promettre aux rares personnes qui savaient l'histoire du nouveau venu de ne point la divulguer. Car elle ne voulait pas que ses enfants la connussent, ni son fils, ni sa fille, qui était une sainte. À bord, il ne se mêlait pas à la compagnie. Il s'asseyait près de la porte, se taisait à table et fuyait la société sous les sapins du parc. Mais là, dans les sentiers solitaires, il rencontrait la jeune Ebba Donna. Elle n'était pas de celles qui aiment les fêtes bruyantes et qui promènent de hardis regards sur le monde. Bien que ses 17 ans fussent accomplis, elle n'était qu'une enfant candide avec de beaux yeux bruns et un rose d'aurore sur les joues. Son corps délicat et svelte se penchait un peu en avant. Sa main aux doigts effilés s'insinuait dans la vôtre et la pressait timidement. Sa petite bouche était la plus silencieuse des bouches et la plus grave aussi. Et sa voix, elle prononçait les mots si lentement et si bien. Mais cette voix ne sonnait jamais jeune et chaude et elle traînait des inflexions lasses comme les derniers accords d'un artiste fatigué. Ebba Donna ne ressemblait à personne. Son pied effleurait la terre, on eût dit une ombre fugitive. Et elle baissait toujours les paupières comme pour mieux protéger ses visions merveilleuses. Élevée par une grand-mère très pieuse, qui l'avait bercée et nourrie de légendes dorées, elle avait grandi dans l'attente du Christ et de son règne millénaire. Et, quand le ciel s'empourprait des flammes du couchant, il lui semblait que le Messie allait sortir et apparaître sur ce seuil de splendeur. Elle vivait en Dieu, elle rêvait de Dieu lorsqu'elle cheminait sous les sapins du parc et y rencontrait le jeune homme. Et un soir vint où il lui parla d'amour. Ebba Donna lui demanda de l'aider à préparer et d'annoncer avec elle l'arrivée du Sauveur. Que pouvait-il répondre? Aucun chemin ne lui était plus fermé que celui où elle voulait qu'il entrât. Il la laissa dans son illusion et leurs secrets de fiançailles se firent sur un mensonge. Ce ne fut pas un amour avec des baisers et des caresses. Il osait à peine approcher d'elle. Elle était fragile comme une fleur. Mais ses 12 yeux bruns se levaient parfois pour chercher les siens. Et par les soirs de clair de lune, quand on était assis sous la véranda, elle se glissait près de lui, et alors il lui baissait les cheveux sans même qu'elle le sentît. Je ne veux pas dire plus de mal de lui qu'il n'est nécessaire. Je veux croire qu'il aima cet enfant. Je veux croire que son âme, près de cette jeune fille, retrouva des ailes. Je veux croire qu'il redevint un homme honnête et un cœur pur. Mais s'il l'aimait, pourquoi ne se dit-il pas tout de suite qu'il ne lui ferait jamais un don plus funeste que son amour? Tout lui a valu mieux que ce recueillement des allées de sapin. Tout, sa vie de mendiant et même de voleur. Tout, tout. Vit-il encore? Interrompit la jeune comtesse. Non, je crois qu'il est mort, dit Anna qui commence à trembler. Et elle reprend. Un été passa, un automne, un hiver, et quand le printemps vint et que la glace du Leven fondit, Ebba Donna tomba malade. Dans les vallées, le sol dégelé formait une boue épaisse, infranchissable. Aux pentes des collines, l'eau ruisselait sur les glacis. Les traîneaux ne pouvaient plus se risquer au milieu du lac, et les voitures ne pouvaient pas encore s'aventurer dans les chemins. Et cependant, la jeune fille était en danger de mort. Il fallait un médecin, et il n'y avait de médecin qu'à Karlstadt. Le jeune homme joua sa vie et partit. Il descendit des côtes de verglas, se tailla des marches dans la glace, affronta l'enlisement des marécages, traversa la débâcle du Leven, et comme le médecin refusait de le suivre, on dit qu'il lui força le pistolet à la main. La comtesse était folle d'angoisse. Quand elle vit le médecin, elle se serait jetée aux pieds de celui qui l'avait amenée. « Demande-moi ce que tu veux !» s'écria-t-elle. Elle lui eut sans aucun doute donné sa fille. Anna Stirnok s'arrêta brusquement. « Qu'arriva-t-il ? » demanda la jeune comtesse. C'est très simple. La jeune fille apprit que celui qu'elle aimait était un prêtre défroqué, et il arriva qu'elle ne voulut pas guérir. Je suis entrée dans sa chambre quelques jours plus tard, et je l'ai trouvée près de la fenêtre ouverte, enveloppée de la mortelle humidité du crépuscule. Je suis la seule qui sache qu'elle a fait ses premiers pas de convalescente vers la mort. J'ai écouté ses divagations dans la fièvre, et j'ai recueilli son dernier salut à celui qu'elle avait aimé. Je n'ai jamais osé dire à cet homme qu'il était son meurtrier. Je n'ai jamais osé jeter sur ses épaules le fardeau d'un tel remords. Et pourtant, n'était-il pas son meurtrier, Elisabeth ? La comtesse Donna a cessé de caresser les fleurs bleues. À ce moment, elle se lève et le bouquet roule à ses pieds. « Tu te moques de moi, Anna, » dit-elle. « Cet homme n'est pas mort. Qui est-il ? » Josta Berling apparut sur le seuil. Il venait les chercher car les vieilles dames s'étaient éveillées. La jeune comtesse, raide, immobile et pâle, le dévisagea. « Allez-vous-en, » dit-elle. « Qui, moi ? » ?»« Je veux que le prêtre défroqué sorte d'ici. »« Mais Elisabeth, » dit Anna. « Anna, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Josta. « Répondez-lui, » dit la comtesse. « Non, comtesse, répondez-lui vous-même. » La comtesse refoula l'émotion qui l'étreignait. « Je lui dirai donc, » fit-elle, « que je connais l'histoire des Badonna et que je ne comprends pas qu'un pareil homme ait le front de se montrer dans la compagnie d'honnêtes femmes. Est-ce assez ?»« Oui, comtesse, je vous demande seulement la permission de prononcer quelques mots pour ma défense. J'étais persuadée que vous saviez tout. Jamais je n'ai essayé de vous rien cacher. » Mais on n'a pas l'habitude de crier sur les grandes routes à qui veut les entendre les malheurs les plus amers de sa vie. Et il s'en alla. La jeune comtesse mit son pied sur le bouquet d'anémone. Tu as fait ce que je voulais que tu fisses, dit Anna Stirnok crûment. Mais c'est fini notre amitié. Ne crois pas que je te pardonne d'avoir été cruelle pour lui. Tu l'as chassé, blessé, insulté, et moi je le suivrai de bon cœur en prison, et s'il le fallait au pilori. Tu as fait ce que j'ai voulu, mais je ne te le pardonnerai de ma vie. « Anna, Anna, penses-tu que je t'ai fait ce récit d'un cœur léger ? Ne l'ai-je pas arraché de ma poitrine, lambeau par lambeau ? Mais alors, pourquoi as-tu parlé ? Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas, entends-tu bien, qu'il devint l'amant d'une femme mariée.